Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale!
Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveauté de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues,
écoute locale!
La playlist,
lundi, 14h, on sauve la musique
à Chiz 94.3.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du Petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adriane Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou Adriane Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours présente L'inframonde de Jennifer Allais dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important? Une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Vous écoutez Les Affamés avec Sarah Manzano, Laetitia Zé et Mathilde Mill.
J'espère que vous avez faim, mes petits poulets et mes petites poulettes, parce qu'on a un beau menu d'actualité là, qui est prêt juste pour vous, spécialement chaud, tout frais, sorti du four des ondes de Chiz 94.3. Je suis, serai et resterai Sarah Manzano, votre animatrice des Affamés, le lundi midi, et je suis accompagnée de ma fantastique et elle aussi toute fraîche, sortie du four, animatrice Mathilda, comment vas-tu?
Oui, ça va très bien, merci.
Écoute, ton deuxième baptême de l'air en ondes, là, tu dois commencer à t'y habituer quand même, là.
Ben écoute, ça va peut-être devenir une petite routine, en fait, finalement.
Ben moi, c'est ce que j'espère, parce que j'adore t'avoir à mes côtés lors de cette émission. On va avoir une petite pensée pour mes co-animatrices Laetitia et Megan, qui sont en train de vivre des aventures quelque part dans le fin fond de l'Eldorado. c'est bien correct, ça fait plus d'amuse-gueule, plus d'amuse-bouche pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? On va commencer par respirer, prendre le temps de vivre le début de la semaine. Puis Mathilda, as-tu passé un beau week-end?
J'ai passé un super week-end.
Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Moi, je veux savoir qu'est-ce que t'as fait.
Alors, donc vendredi, c'était la Saint-Patrick, donc j'ai bien profité de la Saint-Patrick.
Ah oui, t'as bien profité, glou, glou, glou.
Ouais. Et sinon, samedi, je suis allée patiner, donc j'étais trop contente. Oh, wow. J'ai profité des derniers instants, j'imagine. Enfin, je crois que ça a été prolongé quand même dans le centre, il me semble, les ouvertures de patinoires.
Ben, je pense que ça va être prolongé cette semaine parce qu'il annonce de la neige toute la semaine. Donc, le froid, on n'en est pas débarrassé, là.
Voilà, mais je voulais profiter quand même un peu ce week-end. C'était très sympa.
Fait que du petit patinage, hein, c'est le fun, ça. Ouais. C'est, ça fait longtemps que je suis allée patiner, en plus. Je sais pas, la dernière fois, c'était... t'es-tu déjà allée patiner à Québec, là? Il y a certains spots où tu peux faire du patinage dans des sentiers. Fait que là, t'es en plein milieu de la forêt, tu fais juste patiner dans des sentiers. Puis là, le soir, il y a des petites lumières qui illuminent le sentier, puis c'est tout romantique, c'est tout beau, c'est tout poétique.
Wow. En tout cas, ça, je sais pas si j'ai le niveau encore pour patiner dans des sentiers. Je suis quand même tombée quelques fois. Je pense que je me risquerais pas.
Là.
Oui, extrêmement débutante.
Oh, wow.
Mais toi, tu dois être habituée, j'imagine, comme tu t'habites ici.
Ben, je veux dire, tout est relatif. Là. Moi, je me considère pas comme une patineuse professionnelle. J'ai de la misère à patiner par en arrière, pour te donner une idée. Alors que techniquement, un bon Québécois devrait être capable de patiner par en arrière. Écoute, je me débrouille, je suis capable d'aller vite, zoom, 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 puis de bien patiner, mais au-delà de ça, je peux pas te faire ben des prouesses puis ben des acrobaties. Je suis assez limitée dans mon agilité, on va
dire. C'est bien normal, je trouve. Est-ce que t'as passé un bon week-end, toi aussi?
Oui, écoute, passé un bon week-end. J'ai mangé des sushis à volonté hier. Mon bedon en est bien comblé. Je suis allée voir une pièce de théâtre, théâtre samedi soir. Okay. Excellente pièce de théâtre que je recommande à tous nos auditeurs et auditrices. C'est la pièce de théâtre au Trident qui s'appelle « N'essuie jamais de larmes sans gants ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Non, pas du tout.
Ah, fantastique pièce de théâtre. D'ailleurs, le père d'une de mes amies du secondaire jouait dans la pièce de théâtre. Son nom, c'est Hugues Frenette. Je te salue, Monsieur Frenette. J'espère que tu vas bien. c'est absolument bouleversant, c'est touchant, c'est beau, c'est drôle. Pour chaque moment de rire, tu pleures. C'est une pièce de théâtre qui se passe dans les années 80 et c'est basé sur des faits réels. On suit un groupe de personnes qui a réellement existé à Stockholm dans les années 80. Et c'est Stockholm dans les années 80, c'était une des capitales un petit peu de la fierté gay. Beaucoup de personnes gays se retrouvaient à Stockholm pour vivre leur sexualité. Et c'est l'histoire d'un groupe d'amis homosexuels qui vivent un petit peu les débuts de l'épidémie du sida.
Ah, OK.
Et c'est comment est-ce que l'arrivée du sida a chamboulé ce groupe d'amis-là, leurs amours, et tristement, comment est-ce que ces personnes-là dans ce groupe-là sont morts un à un à cette maladie-là, pour ne laisser au final qu'une seule personne de vivante dans ce groupe d'amis-là.
Donc c'est quand même tragique.
C'est assez tragique, c'est très bouleversant, c'est très triste, parce que tu vois un petit peu, une fois que ces personnes-là sont mortes, qu'est-ce qui se passe au niveau des funérailles? Et là, tu vois les controverses de l'époque où on ne parlait pas du sida. On disait qu'ils étaient morts du cancer. Oui. Et aux funérailles, on ne disait certainement pas qu'ils étaient gays. On disait leurs très bons amis sont là. Mmh. Et même dans la pièce de théâtre, il y a un des personnages dont l'amoureux meurt. Et la famille traite ce gars-là comme leur fils, comme quelqu'un de proche. Mais à partir du moment où leur fils meurt, ils disent à l'amoureux, ben tu ne peux pas venir aux funérailles, tu n'auras essentiellement aucune décision sur comment ça se passe. Et c'est chamboulant. Moi, je voyais une fille, deux rangées à côté de moi, puis un gars, trois rangées avant de moi, qui pleurait à chaudes larmes. Mais c'est drôle. Je vous le préviens tout de suite, il y a de la nudité dans ce show-là. Il y a eu, et ça, je trouve ça absolument fantastique, un directeur d'intimité pour certaines scènes. Donc, la mise en scène est superbe. C'est vraiment un beau show. Ça vaut la peine. Puis, je sais que, oui, on est en 2023, mais l'homosexualité et la sexualité en général restent un sujet assez tabou ou qui rend certaines personnes inconfortables. Et quand c'est des pièces de théâtre de nature LGBTQ+, de beaucoup de personnes qui font comme « Oh, ça va être trop froufrou, ça va être too much, ça va être trop pour moi, ça va être trop dans ma face, ça va être trop extravagant, blablabla », je trouve que c'est extrêmement posé. Oui. Je trouve que l'aspect historique vient
naturellement
aider à ça. Mais tu sais, les moments un peu plus cocasses, un peu plus in your face, sont balancés par des moments grounded, puis c'est réaliste, tu sais, t'as l'impression de regarder des interactions entre êtres humains, t'as l'impression de voir du vrai, puis c'est pas parce que c'est gay que c'est dans ta face, tu sais. Ça pourrait, en tout cas, je trouve ça beau, puis je trouve que même quelqu'un qui aurait peut-être plus de misère avec ce genre de projet-là, si on peut dire, devrait s'ouvrir à l'expérience, puis serait capable de passer un bon moment malgré tout. Fait qu'en tout cas, chers auditeurs, chers auditrices, je vous le recommande si vous avez il y a quand même quelques dollars à dépenser là-dedans. Ça fait un beau week-end, puis ça fait des belles conversations.
Et c'est encore possible de voir cette pièce?
Oui, écoute, regarde, je vais aller te le chercher à l'instant. Là, cette pièce-là est à l'affiche, si on peut dire ça comme ça, jusqu'au 1er avril 2023. Donc, c'est du 7 mars au 1er avril au Théâtre Le Trident. Je vous le conseille fortement. C'est une belle expérience. On va arrêter de parler aux fins de semaine, puis on va parler de quelque chose qui te touche, toi, peut-être moins que d'autres étudiants, mais qui touche plus précisément 56% des étudiants de l'Université Laval.
C'est beaucoup.
La grève des professeurs, la maudite grève des professeurs. On en a-tu fini avec ça? Eh bien non, on n'en a pas fini. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais essentiellement, les négociations sont suspendues jusqu'au 24 mars entre le syndicat des professeurs et l'Université Laval. Et ce matin, l'Université Laval est annoncé, et le Journal de Québec a partagé cet annoncement-là, qu'il y avait un feu vert pour le prolongement de la session à l'Université Laval et qu'on peut s'attendre à ce que les cours poursuivent au-delà du 30 avril. Toi, entendre ça, comment ça te fait réagir que tu aies peut-être
à étudier jusqu'au 30 avril.
Je pense que c'est un peu sans surprise. C'est sans surprise. Que ça tombe honnêtement, parce que le plus il y avait une prolongation de la grève, le plus forcément les activités sont suspendues, on se demande comment on va rattraper ça, et physiquement c'est impossible de tout condenser dans quelques semaines en fait. Donc forcément, je m'attendais à ce que ce soit prolongé. Moi, ça m'affecte pas directement.
C'est ça, toi, t'as beaucoup de chargés de cours, puis t'es pas de professeur là, nécessairement qui t'enseigne.
J'en ai un, mais je peux me débrouiller autour de ça, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a tellement d'étudiants qui doivent être affectés par la situation, qui ne serait-ce que de pas savoir en fait quand est-ce qu'ils vont être diplômés, qui attendent, c'est peut-être leur dernière année avant le diplôme, et ça doit être compliqué. Ouais.
C'est ça. Donc selon les statistiques, là, on dit qu'il y a environ 56% des étudiants de l'Université Laval qui ont au moins un cours touché par la grève, et ça c'est un minimum là. Oui. Il y en a que c'est tous leurs cours qui sont affectés par ça. Et là jusqu'au 30 avril, et ça peut même aller au-delà de ça, ça impacte vraiment donc la flexibilité, le temps de travail que les élèves vont avoir là durant l'été. La direction de l'Université Laval réitère que l'annulation de la session ne sera pas envisagée. Ça n'arrivera pas. Donc, elle aura bel et bien lieu, coûte que coûte. Okay. Et dans peu importe, ça sera quoi les délais. Oui. Elle précise aussi, si ça peut être encourageant pour certains étudiants, que les étudiants auront droit à leurs mots, puisqu'ils seront appelés à se prononcer à la majorité sur le plan de reprise soumis par leur professeur lorsque la session reprendra et lorsque les activités reprendront, même si c'est sur une période prolongée. Donc, c'est assez...
Ça reste quand même un petit peu angoissant, même s'il y a cet aspect positif de pouvoir rediscuter autour de la reprise, comment ça va s'effectuer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a peu d'informations, quoi, à part ça.
Moi, ce qui me tilt, ce qui vient me chicoter. On va y aller avec ça. Et je ne suis plus étudiante à l'Université Laval. J'ai gradué, j'ai fini, il faut le mentionner. Mais ce qui vient allumer un petit peu mes lumières et me faire poser des questions, en même temps, on ne connaît pas tous les détails des négociations et de la situation, c'est l'Université Laval qui dit qu'elle va tenter d'offrir aux étudiants touchés des modalités de reprise flexibles, comme des cours virtuels asynchrones que les étudiants peuvent suivre en ligne au moment qui leur convient. Donc, c'est tenté, c'est dans l'incertitude. On est assez minime sur le quand, le comment et les détails de comment est-ce qu'on va accommoder les étudiants dans cette situation-là. Par contre, on exige des étudiants de prévoir qu'ils devront faire une conciliation et on leur demande de s'adapter et de faire des ajustements.
Ouais.
Et... Je me dis, vous demandez beaucoup de choses de la part d'étudiants qui sont même pas impliqués dans le conflit. Et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes. On ne sait pas comment fonctionnent, comment se déroulent les négociations qui, en ce moment, sont suspendues jusqu'au 24 mars. Mais nous, on ne sait pas à quel point vous vous adaptez. On ne sait pas à quel point vous vous ajustez puis à quel point vous êtes vraiment flexible pour régler cette question de grève-là. Et d'ailleurs, un des sujets qui est soulevé au niveau de crime, vous semblez pas nécessairement prendre ça super au sérieux. Et encore là, je te relance la question, je sais pas si tu as vu ça passer. C'est la rectrice de l'Université Laval qui s'en va faire une conférence à Montréal aujourd'hui, en plein milieu des grèves, là.
C'est vrai que le timing c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire une conférence.
Et as-tu vu le nom de sa conférence? Moi,
oui,
ça m'a bien fait rire.
Le nom est assez ironique.
Donc, c'est ça, la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour, se prononce aujourd'hui à une conférence auprès de la communauté d'affaires au Cercle canadien de Montréal. Et sa conférence s'intitule « Notre avenir, le talent, l'innovation et les partenariats ». Ça, c'est riche.
Je comprends que ça vienne un peu titiller les professeurs qui sont en grève, qui vont d'ailleurs faire une contre-conférence.
On va en venir à la contre-conférence. Ouais. Essentiellement, ce qu'elle va aborder, Madame Damour, dans sa conférence, elle va expliquer comment les universités canadiennes sont actives et engagées dans leur transformation pour contribuer à cet effort collectif et urgent de former et d'attirer des talents. Moi, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. T'sais, attirer des talents, ça me fait Bon, beaucoup pensé au sport aux États-Unis où ils essayent de recruter là, des meilleurs joueurs pour avoir leur bourse puis pour avoir leur pointage. Je sais pas. Bon. C'est son sujet de conférence. La pertinence et le à quel point le sujet est insipide ou non en ces temps de grève est à débattre pour plusieurs. Ouais. Comme tu l'as dit, il va y avoir une contre-conférence donnée par Monsieur Louis-Philippe Lampron. Mmh. Et c'est le directeur du syndicat.
Oui, c'est ça.
Exactement. Mmh. Ouais. Et je pense que t'avais le titre devant toi, là. Moi, je le trouve drôle, là. Je sais pas si tu veux nous le lire.
Alors, attends, je sais plus si je l'ai devant moi, mais...
D'après, je vais le retrouver.
OK, merci.
OK, oui, je l'ai devant moi.
Ah, super.
Moi, oui. ça m'avait tellement fait rire parce que ça vient un petit peu balancer là, le titre de la conférence de Madame Damour et la contre-conférence de Monsieur Lampron, ça va être « Notre avenir, point d'interrogation, il n'y a pas d'avenir universitaire sans les professeurs. » Contre-conférence, deux points, le talent, la collégialité, pardonnez-moi, et la transparence. Donc, assez wordy, assez...
Bon. Sarcastique. Enfin, il y a un petit peu de sarcasme.
C'est vraiment une pointe, et il a un point. Mmh. On ne peut pas former des futurs talents, on ne peut pas attirer des futurs talents si on n'a pas de bonnes bases sur lesquelles les modeler, les former, si tu n'as pas de professeur.
C'est ça, s'il n'y a pas d'enseignement, comment est-ce qu'on peut attirer des talents, en fait?
Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu les as, tes talents? Ouais. Tu ne peux rien faire. Donc, bon, il y a beaucoup de rétroaction, d'aller-retour sur le sujet, c'est assez controversé. À tout ça, la direction de l'Université Laval se défend et défend la rectrice. La direction des communications, plus précisément, et on la cite, dit que la rectrice profite de toutes les occasions qui lui sont offertes pour faire valoir la mission universitaire, ainsi que les nombreuses contributions des membres de la communauté universitaire à l'avancement de l'enseignant, le développement et le transfert des connaissances. Mmh. Elle fait rayonner l'Université Laval. Donc vraiment, on veut peindre Madame Damour dans une bonne lumière.
C'est ça.
Et pour y avoir déjà parlé à Madame Damour, j'y laisse le bénéfice du doute que c'est une dame qui veut bien faire, qui a à cœur de bien faire les choses et d'entretenir un certain environnement. Là, la question qui mérite d'être posée, c'est est-ce que sa vision de qu'est-ce que doit être notre université est un peu désuète? Oui. Je dirais pas archaïque, parce qu'elle a vraiment pas une vision archaïque des choses, mais est-ce que sa vision est un peu désuète? Est-ce qu'elle mériterait d'être réévaluée, d'être remodelée? Mm-hmm. D'être ouverte à d'autres plans que peut-être elle n'était pas aussi prête à considérer avant.
Et est-ce qu'elle correspond en fait aux besoins actuels?
Oui.
En fait, c'est ça. Et j'ai l'impression que sur le papier, il y a beaucoup de bonnes intentions et c'est vraiment en fait favorable au développement, à l'expansion. Mais finalement, est-ce que dans les faits, ça va vraiment avoir un impact positif?
Tu vois, tu viens de dire quelque chose, puis je pense que t'as un peu semé la graine de la pensée que j'ai dans ma tête.
Oui.
Moi, je vois ça comme, est-ce que son plan est bon pour le développement de l'université, l'institution, ou pour l'université, les gens et la communauté à l'intérieur de l'université?
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y a une différence entre l'institution, où ça va être une approche beaucoup plus, justement... Bon, on est axé sur le financement, apporter des nouveaux talents, puis la performance, puis bien performer en tant qu'université, puis ben la communauté, comment va notre communauté à l'intérieur? Comment vont nos professeurs? Comment vont nos élèves au-delà de la performance?
Oui, les conditions de travail, en fait.
C'est ça. Mmh. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les encadrer?
C'est ça.
Bref, on va continuer de suivre ça d'un œil bien ferme et attentif, mais c'est certain que pour l'instant, la grève n'est vraiment pas proche d'être fini, c'est loin d'être fini même. Ne désespérez pas, nous vous donnerons des updates et des nouvelles dès que nous les aurons. On va prendre une petite pause de l'actualité, on va aller en musique. On va écouter Saturday de Yacht Club et on vous revient dans quelques instants.
Yeah. Bon, OK, un trou Big Mac, là, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Sarah Manzano, c'est encore meilleur.
Vous êtes toujours sur les ondes de Chiz 94.3 en train d'écouter Les Affamés avec la douce voix de Sarah Manzano et la mélodieuse voix de Mathilda. On va aborder une dernière nouvelle là, avant d'enchaîner quand même plusieurs belles capsules qu'on a prévues pour l'autre partie de l'émission. Un peu plus tard, on va recevoir en entrevue deux femmes extrêmement fantastiques qui ont un projet bien intéressant à nous parler. Si jamais vous n'êtes pas familier avec l'Université féministe d'été du campus Université Laval, on va apprendre plus de détails tantôt avec Bénédicte Taillefet et Rose Moisan-Paquet, qui sont deux coordonnatrices de l'événement. Sinon, tantôt, comme d'habitude, on va avoir notre fantastique capsule historique avec Charles-Antoine, notre cher et fantastique Charlot. Mais en attendant, on va vous parler d'un sujet un peu moins fantastique que ces deux interviews-là. On va vous parler de poussière rouge. Toi, Mathilda, tu me dis là que t'avais habité un petit peu à Limoilou quand t'étais arrivée à Québec, c'est bien
alors,
ça?
Alors, j'ai failli habiter.
T'as failli habiter, c'est ça.
Et j'ai pas habité là, finalement. Mais ouf, ouais. Quand je lis ça, je me dis c'est peut-être pas plus mal.
T'as évité plusieurs balles de fusil, comme on dit, ouais. en bon anglicisme. Donc, toi, la question de la poussière rouge, est-ce que t'en avais déjà entendu parler ou c'est assez... c'est pas quelque chose qui t'est familier, là?
J'en avais jamais entendu parler.
Okay.
Je sais pas vraiment... en lisant l'article, on dirait qu'on sait pas vraiment à quoi c'est dû, donc il y a un peu un flou autour de ça, en fait, de ce que je comprends.
C'est ça qu'on va aborder un petit peu justement dans l'article d'aujourd'hui. On dit qu'on sait pas vraiment à quoi c'est dû, mais beaucoup de personnes disent que ils savent à peu près à quoi c'est dû.
Il y a des suspicions.
Qu'il y a des grandes suspicions, puis que bon, c'est un petit peu être dans le déni, dire okay. On sait pas d'où est-ce que ça vient.
Ouais.
Donc, si on se souvient bien, en août dernier, il y avait un épisode de poussière rouge qui était survenu dans le coin de la base ville. Et c'est le ministère de l'Environnement qui a pris ça en main. Par contre, il n'a pas été capable de déterminer la cause de cet épisode-là. Et ça crée beaucoup de polémiques, ça crée beaucoup de personnes fâchées parce qu'ils veulent des réponses. Et essentiellement, on accuse Québec de laxisme dans le dossier de la poussière rouge. Donc vraiment, les citoyens ne sont pas contents. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, là, je vous invite à lire l'article de Radio-Canada ici Québec écrit par Louis Gagné. Très intéressant, il va avoir des statistiques un peu plus précises.
Mais il y a eu d'autres épisodes, non? Il me semble de... J'ai cru voir qu'en 2012, par exemple, il y avait eu un gros épisode de poussière rouge... Est-ce que je sais pas ce que tu étais
moi j'avais 12 ans, j'avais 12 ans, j'étais une jeune marmot et je ne me souviens pas de grand-chose
okay.
Et je te dirais qu'en 2012 en tout cas c'était beaucoup le printemps érable, la grève étudiante là que moi je me souviens et qui m'avait marqué là.
D'accord.
Mais essentiellement le plus récent cas de poussière rouge date du 18 août 2022. Et ça s'était passé dans les quartiers Mézeray à Québec. Et depuis ce temps-là, les citoyens militent pour avoir une meilleure qualité de l'air. Et les citoyens qui militent estiment qu'ils auraient pourtant pu facilement établir un lien de causalité avec les activités portuaires en cherchant plus loin. Donc vraiment, on reproche au ministère de l'Environnement de ne pas avoir assez poussé les recherches et de ne pas vouloir pointer du doigt les personnes ou les institutions qui doivent être pointées du doigt. Et bon, de toute évidence, le mouvement militant citoyen pointe du doigt les activités portuaires, ce qui serait assez logique parce que si on voit un petit peu la carte de où est-ce que c'est propagé,
c'est assez proche du
épisode.
Port, quand même.
Ouais. Mais c'est collé au port.
Ouais, c'est collé
au port. Ça commence avec le port et ça se projette tout le quartier Mézeray là qui est en arrière et surtout proche de l'eau. On sait à quel point les vents sont plus forts, sont plus présents. Donc ça serait pas surprenant aussi que ça soit poussé là par ce vent là.
Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si on voit de la poussière rouge, quel réflexe est-ce qu'il faudrait adopter en fait?
Ouais, mais c'est très difficile de pouvoir faire quelque chose parce que au-delà de juste reconnaître qu'il y a de la poussière dans le moment présent, il y a pas beaucoup de démarches là qui peuvent être entreprise. Bon, il y a des gens qui réclament un contrôle renforcé des techniques novatrices, des méthodes sophistiquées pour déterminer les sources de contamination et éventuellement sévir contre les pollueurs. Mais pour ça, il faut avant tout reconnaître d'où est-ce que ça vient.
Oui.
Et on a Monsieur Carl Touzin, qui est responsable du contrôle environnemental dans la région de la capitale nationale au ministère, qui se défend de rester les bras croisés. Il dit que il en faut beaucoup. Là. Il dit ce plan de contrôle va notamment permettre de mieux caractériser ce qu'on va trouver dans les situations d'échantillonnage pour venir faire un appariement avec une source potentielle de contamination et par la suite intervenir. Fait que lui dit avant tout il faut se faire un plan pour déterminer d'où ça vient et une fois qu'on a notre plan pour déterminer d'où ça vient et qu'on a déterminé d'où ça vient, là, on peut agir. Cependant, c'est impossible d'en savoir plus sur les techniques et les méthodes auxquelles M. Touzin fait allusion. Mm-hmm. Pour les citoyens, à part être inquiets, à part militer, il n'y a pas grand-chose qu'il faut faire, à part continuer d'espérer. T'sais, c'est pas nouveau, là, les problèmes de pollution de l'air là, dans Limoilou. Ça fait... une bonne vingtaine d'années. En tout cas, ils ont des données là qui datent d'une bonne vingtaine d'années et des milliers de données. À un moment donné, il faut agir. Ce qui semble un petit peu peut-être titiller, c'est le fait que agir et servir, va falloir agir et servir sur des compagnies qui contribuent un petit peu à l'économie locale, qui sont placés là, mais c'est en ça. Étant placés là, ils contribuent à la mauvaise qualité de l'air.
C'est ça. Donc, en attendant, peut-être on peut juste le signaler. Je vois qu'il y a un numéro qui est disponible, un numéro d'urgence environnement, qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours oui. sur 7. Donc, le numéro, il est sans frais, et c'est le 1-866-694-5454.
Donc, si jamais vous constatez la présence de poussière ou de toute autre substance inhabituelle, il faut rejoindre ce numéro-là. On vous le répète une dernière fois. 1-866-694-5454. Donc, on vous invite à aller l'appeler, le contacter. Surtout que, en tout cas, je sais pas si toi, t'as vu un petit peu les détails de qu'est-ce qui se retrouve dans cette poussière rouge, mais c'est assez choquant et assez toxique.
La liste est longue, en tout cas, oui.
Moi, j'aimerais pas ça, respirer ça dans mon environnement quotidien.
Non.
Essentiellement, il y a une concentration élevée de calcium, de fer. Il y a aussi un petit peu d'aluminium, de magnésium, de
nickel,
sodium,
donc, ouais.
du nickel. C'est sûr que c'est en plus petite quantité, mais les deux plus grandes concentrations, c'est vraiment de calcium et de fer. Ouais. Ça peut être assez dangereux pour la santé au long terme quand on est exposé à ça, surtout si on a des problèmes respiratoires. Donc, le plus tôt, il y a des actions qui sont prises, le plus tôt c'est réglé, le mieux ça va être pour tous nos citoyens de Mézeray et de la basse ville. On va prendre une petite pause, on va aller se relaxer, le coco. On va aller en pause publicitaire et après on va revenir en chanson. Et au retour de ce petit break-là, de ces petites pauses-là, nous allons interviewer nos deux dames, Rose Moisan-Paquet et Bénédicte Taillefet, qui vont nous donner un peu plus de détails sur cet événement qui est l'Université féministe d'été. Donc, on vous revient dans un instant.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé. D'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui sont aussi amies et cousines? Ben, je vous suggère fortement d'écouter l'émission culturelle et anecdotique 10 entre nous.
À travers des thématiques variées, on vous fait part de nos expériences personnelles et communes, de nos meilleurs souvenirs de jeunesse, en s'appuyant chaque fois sur la musique, le cinéma et la littérature. À 10 entre nous, la nostalgie coule à flot et ça se passe un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie J'arrive! Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Les affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Eh bien oui, nous sommes déjà rendus à la moitié de l'émission. J'espère par contre qu'il vous reste de la place dans votre petit bedon pour cette suite d'émission, parce que là, on a un sujet extrêmement intéressant que j'ai très hâte d'aborder. On reçoit en studio en ce moment deux auxiliaires assistantes d'enseignement et doctorantes en sociologie, mesdames Bénédicte Taillefet et Rose Moisan-Paquet, qui vont nous parler de l'Université féministe d'été. Vraiment une belle activité. J'ai vraiment été hâte que vous nous en parliez un peu plus. Mesdames, comment allez-vous?
Ça va bien, merci de nous recevoir.
Ça va, merci.
Ben écoutez, merci de prendre le temps de discuter avec nous en onde. Écoutez, moi, la majorité de mon université, je l'ai faite à distance à cause du COVID. Fait que je n'ai jamais ni vu ni entendu parler de cet événement-là. Je me doute que ça a peut-être pris une pause avec le COVID. C'est quoi l'université féministe d'été qui va avoir lieu sur le campus de l'Université Laval?
Oui, ben en fait, t'es pas la seule à avoir eu les contre-coups du COVID. Nous aussi, on a eu des éditions qui était à distance, mais là, on revient en présentiel. L'Université féministe d'été, en fait, c'est un colloque qui est aussi un cours d'été. Okay. Donc, un colloque multidisciplinaire qui va rassembler des personnes qui travaillent sur les enjeux féministes dans différentes universités, mais aussi du milieu militant, du milieu communautaire. Puis, cette année, je vais laisser ma collègue là, présenter notre thème pour cette année.
Donc cette année, le thème retenu, c'est liberté plurielle et résistance féministe, convergence, tension et transversalité. Derrière okay. ce thème un peu à rallonge, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de questionner la notion de liberté, notamment parce qu'on s'est rendu compte, donc ça a été élaboré avec le comité scientifique de l'UFE, mais on s'est rendu compte que dernièrement, la notion de liberté était quand même un petit peu galvaudée par une partie de la droite et de l'extrême droite. Ouais. Donc on trouvait ça important de revenir sur justement l'usage de ce terme-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire en termes féministes? Qu'est-ce que c'était la liberté sur le dos de qui? En fait, on avait fait des avancées entre guillemets féministes. Ouais. Donc vraiment, on a essayé de mettre de l'avant une programmation qui était à la fois critique et intersectionnelle sur cette notion-là de liberté, de voir, ben c'est ça, quelles ont été les conquis féministes, mais quels ont été aussi les angles morts de ces luttes-là et de ces études-là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a pensé à la fois revenir sur les études féministes, les études queer, mais aussi sur les mouvements et les groupes militants. Donc vraiment, ouvrir un espace de dialogue entre les deux, à la fois la recherche féministe et puis les mouvements militants et communautaires.
Donc, excuse-moi, donc vraiment, si on voit ce colloque-là, avec les sujets qui sont abordés, et clairement l'objectif, il faut être ouvert d'esprit, il faut être ouvert au dialogue, il faut être ouvert à se faire un petit peu défier notre notion de liberté et d'où viennent ces libertés-là. L'objectif du colloque, c'est vraiment un petit peu de repréciser le féminisme dans l'esprit de certains et de le repréciser aussi dans une idée de notion de liberté, c'est bien ça?
Ben, en fait, c'était surtout pour se poser la question de... Qu'est-ce que les mouvements féministes et les études féministes ont apporté, okay. comme critique. Et effectivement, c'est pas tant une histoire d'ouverture d'esprit que d'être prêt à questionner des présupposés, des prix pour acquis. C'est dans une posture sociologique, notamment, qu'on va se poser ces questions-là. Voir le féminisme et les études de genre comme un outil critique pour questionner les présupposés, les pris pour acquis, notamment sur la question de liberté, puis vraiment penser la question de liberté en termes pluriels, donc comme une multitude de libertés, hein, de se poser la question des libertés de culte, des libertés sexuelles, des libertés d'accès...
religieuses, de corps, de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre aussi... Puis comme Bénédicte l'a dit, c'est aussi face à cet usage galvaudé là du terme liberté, notamment qui est repris beaucoup par la droite, l'extrême droite, mm-hmm. c'est de le replacer dans une visée collective aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Donc comment on pense les libertés collectives sur le dos de qui? Comme Bénédicte l'a dit, certaines libertés se sont construites, donc vraiment dans une posture intersectionnelle. Puis vraiment notre grille horaire, nos panélistes reflètent cette volonté-là. Donc on essaie vraiment d'aller chercher des gens de différents horizons, différentes disciplines, comme on a dit, autant du milieu universitaire, ça reste un colloque scientifique, donc oui, on a des profs et tout, mais c'est important aussi d'avoir des gens qui ont une expérience militante, une expérience communautaire, d'aller chercher ce point de vue situé-là qu'on n'entend pas nécessairement forcément dans les différents colloques scientifiques. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière la prochaine édition. Puis, on l'a pas mentionné, mais c'est aussi le 20e anniversaire de l'UFE.
Oui.
Donc, on retourne en présentiel après la pandémie. On est dans un mode qui est présentiel hybride. Donc, la grande, grande majorité de nos activités se tiennent sur le campus. On a quand même certains panels qui sont à distance dans une visée d'accessibilité, mais aussi pour aller chercher des chercheurs d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, notamment des gens en Europe ou simplement des chercheurs d'ici qui n'étaient pas disponibles pour être en présence, qu'on tenait à avoir, qui sont dans notre grille horaire. Donc, on est très, très excités là, de tenir le colloque en mai.
Je me permets de revenir sur un point. Je vois que l'intersectionnalité
l'intersectionnalité est un aspect important de ce programme. Mais est-ce que, donc, j'ai cru comprendre, vous parliez de sociologie, vous êtes toutes les deux doctorantes en sociologie. Est-ce que votre colloque suit tout de même une certaine orientation méthodologique autour des recherches sociologiques, donc?
Ben oui, on a quand même essayé d'être multidisciplinaire. Donc il y a des gens aussi qui sont des chercheurs chercheuses qui sont prévus dans le colloque qui viennent pas nécessairement de sociologie. Notamment, il y en a qui viennent de littérature, par exemple, de disciplines plus artistiques. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a quand même c'est surtout une méthodologie féministe.
D'accord. Donc vraiment, études de genre.
Exactement. Okay. Études de genre, études féministes. Et comme le disait Rose, vraiment avec une volonté de faire une programmation intersectionnelle, en tout cas qui a à cœur d'adresser les enjeux des marges qui sont parfois et qui ont été souvent oubliés par les études féministes. Donc vraiment de questionner les angles morts des perspectives féministes plus majoritaires pour inclure aussi la voix des personnes marginalisées et des études aussi plus marginalisées. Donc vraiment on a essayé d'avoir une programmation en intégrant les questions des personnes trans. Donc les études trans sont quand même bien...
études queer aussi, oui. Perspectives lesbiennes. En termes méthodologiques, c'est clair qu'on est dans le point de vue situé le plus possible à l'échelle chercher des gens qui vivent l'expérience de laquelle ils viennent nous parler. Donc, c'est un peu la méthodologie qu'il y a derrière l'Université féministe.
Un peu une méthodologie un peu phénoménologique, peut-être, à certains moments ou...
Phénoménologique, je ne sais pas si tous les chercheurs-chercheuses qu'on a invités sont vraiment dans cette méthodologie-là à proprement parler, mais en tout cas... vraiment, encore une fois, méthodologie féministe, queer et intersectionnelle. Ça, c'est sûr. Phénoménologique, d'accord. Je ne peux pas vous dire pour
Depuis tantôt, vous êtes très excitée sur votre programmation. Vous en parlez avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Est-ce qu'il y a une panéliste en particulier que vous êtes particulièrement fière d'avoir pu mettre dans votre programmation? Vous êtes assez excitée d'avoir un petit peu comme présentation parmi les 6 jours à peu près que ça... Non, les 4 jours que ça va avoir lieu.
Oui, bien, en fait, c'est sûr que chaque personne a été choisie avec soin.
Oui, c'est certain.
Si je peux me permettre l'expression. Mais pour ma part, on a Lynn Chamberlain qui vient. Lynn Chamberlain qui est une professeure retraitée. Oui. Donc, ça fait toujours un peu chaud au cœur quand quelqu'un qui n'est plus à l'emploi, donc qui peut passer ses étés au soleil au Mexique si elle veut, mais qui décide de venir à Québec d'être présente puis de faire partie de notre programmation. C'est sûr que ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce type de profil-là. Parce qu'encore une fois, on force personne, mais quelqu'un qui est à la retraite, bien, on sent la volonté d'être présente. Puis Lynn Chamberlain, bien, elle va venir nous parler précisément des mouvements et des perspectives lesbiennes. Souvent un sujet qui est un peu mis à la marge, même dans les études féministes. Donc pour nous, c'est important d'avoir cette représentativité-là, cette parole-là. Puis en plus d'avoir quelqu'un qui a toute l'expérience de Lynn, c'est vraiment génial.
Puis je pense qu'on peut aussi dire que le fait d'avoir réussi à avoir des moments asynchrones, ça nous a permis d'avoir Alexandre Barry dans la programmation.
Oui,
je peux parler pour Rose et moi. Je pense qu'on pourrait monter un petit fan club d'Alexandre Barry. Donc on est très contents de l'avoir aussi dans la programmation. Ça fait partie des personnes qu'on avait envie d'accueillir au sein du Buffet.
Puis c'est sûr que là, les deux noms qu'on vient de vous nommer, c'est vraiment des chercheurs, chercheuses bien établis, mais on a aussi des personnes qui viennent de la recherche émergente, notamment en conférence d'ouverture Caroline Souffrant, qui vient de publier un ouvrage chez Remus Ménage qui s'appelle Le privilège de dénoncer, donc qui parle précisément des enjeux de blanchiment, de silenciation des femmes noires dans le mouvement MeToo. Ça aussi, c'est vraiment une fierté. Encore une fois, des enjeux qui sont pas toujours abordés. Puis
c'est des enjeux qu'on n'est peut-être même pas parfois conscient que c'est des enjeux à cause de notre privilège.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr que notre programmation n'est pas parfaite. Nous aussi, on a des angles morts. On travaille fort à les reconnaître puis à mettre le plus de voix marginalisées possible de l'avant. Mais je pense qu'on a quand même fait un bel exercice avec notre programmation. Puis comme je disais, Caroline Souffrant, c'est une chercheuse émergente aussi. Donc, l'UFE, c'est ça, c'est d'aller chercher des gens qui sont bien établis, qui ont une carrière de chercheuse, mais aussi des chercheurs, chercheuses en formation, de leur donner une plateforme pour la diffusion de leur recherche. C'est ça qui est important aussi.
Ben oui, c'est ça. De toute façon, vous avez 4 jours, là, si je ne me trompe pas, du 22 au 26 mai. C'est pas énormément de temps pour couvrir tant de sujets si vastes, si charnus, tu sais, dans le contenu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'angles à couvrir. On peut pas faire ça juste en 4 jours. Mais c'est ça qui est le fun avec l'université féministe d'été, c'est que ça revient à chaque année quand il y a pas de COVID. Donc, on va pouvoir sûrement compléter les angles morts dans les prochains étés.
Oui, et donc sur un plan un peu plus pratique, je viens de penser à quelque chose. Est-ce que les intervenants seront là en présence ou est-ce qu'il y aura une partie un peu hybride avec un Zoom?
En fait, c'est ça, comme on le disait, il y a des moments qui ont été aménagés qui sont asynchrones.
D'accord.
Donc vraiment, ça va être des capsules préenregistrées. On avait ça vraiment pour aussi alléger la programmation. En tout cas, l'exigence d'être sur le campus, on savait que ça peut être demandant pour certaines personnes. Oui. Notamment, on a pensé à l'équilibre entre vie professionnelle et d'autres charges familiales. C'est ça.
D'accord.
Donc vraiment... Les moments asynchrones, ça va être des capsules préenregistrées qui pourront être visionnées à n'importe quel moment à partir du début de l'UFE. En fait, le lundi 22, ça va être mis en ligne. Donc, les personnes pourront les visionner quand elles le veulent. Et les moments en présentiel, tout est indiqué sur la programmation, vraiment les moments qui sont en présentiel et ceux qui sont asynchrones. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas comodal. Donc, les moments en présentiel ne seront pas retransmis. Il faut vraiment... Il y a une présence requise. C'est ça. Il y a une présence requise sur le campus. Donc, les panélistes seront en présentiel. Je pense le lundi matin, c'est Caroline Souffrant qui vient nous parler de ses travaux. Puis après, ça va être tous les après-midi. Donc, lundi PM, mardi PM, mercredi PM, jeudi PM et vendredi PM, en fait.
OK, d'accord. Autre petite question, toujours sur le plan pratique, en termes de crédit. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des crédits en fait qu'on peut obtenir à travers ce colloque qui est aussi un cours, ou est-ce que c'est vraiment juste plutôt pour un enrichissement personnel? Comment est-ce que ça se passe?
Mais ce qui est le fun avec l'UFE, encore une fois, c'est qu'on a différentes formules. Donc oui, une formule étudiante, un 3 crédits comme n'importe quel cours, mais on a aussi une formule ouverte à tous.
Okay.
Donc vraiment auditoriste libre qui peut se présenter à l'UFE. Donc on essaie de rendre le colloque le plus accessible possible dans ces termes-là aussi. C'est sûr que notre auditoire est d'abord étudiant, on ne va pas se le cacher, ça reste un cours, mais on a aussi beaucoup de gens du milieu communautaire. C'est très, très hétéroclite. On a notamment pas mal toujours une délégation d'Haïti qui vient pour le colloque de l'UFE. Donc, il y a différentes formules, puis on essaie de ratisser le plus large possible. J'ai vu que ce matin, on avait des inscriptions de la Gaspésie aussi, donc il y a des gens qui vraiment se déplacent là, pour l'événement.
Il y a des hébergements prévus?
On a réservé quelques chambres aux résidences de l'université.
OK.
Donc, c'est possible d'avoir accès à une chambre. Alors, faut la payer de sa poche, là, lui.
Oui,
l'université n'a pas nécessairement les finances pour accueillir, défrayer tout le monde. Mais en tout cas, il y a tout sur notre site Internet. Il faut donner un numéro d'événement aux résidences, aux services des résidences. Puis, ils pourront, donner accès à une chambre aux résidences pour pouvoir être présents toute la semaine à l'université.
OK, d'accord.
Cool.
Merci.
Et à titre informatif... Ce colloque-là, à qui il est, je me doute qu'il s'adresse à un groupe particulier, mais ultimement, à qui il est ouvert? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis, des certaines connaissances? Est-ce qu'il faut répondre à certains critères pour aller à ce colloque-là, ou il faut juste avoir l'intérêt, la motivation et on participe?
Je dirais qu'en premier lieu, l'intérêt, la motivation, c'est toujours...
C'est toujours le prérequis
premier.
C'est
toujours le prérequis principal. Après, quand on parle de la formule étudiante, il faut s'assurer, si on veut que ce soit crédité, que ce soit contributoire dans son cheminement. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire à la formule étudiante, qui ne sont pas en sociologie, par exemple, qui viennent d'autres universités, informez-vous à vos directions de programme pour savoir si ça peut être contributoire dans votre programme à vous. Sinon, c'est sûr que... C'est un défi aussi d'articuler les enjeux féministes pour des chercheurs, des gens qui ont un gros bagage en recherche féministe, mais aussi des gens qui sont complètement novices. Donc, c'est pour ça que dans la formule cours, mais nous, on fait de l'encadrement pédagogique pour accompagner nos étudiants, nos étudiantes là, dans ces différents acquis-là. Donc, vulgariser des concepts qui, pour nous, vont de soi, sont de base, mais pour quelqu'un que c'est le premier cours en études féministes, que la personne ne va pas nécessairement être familière avec ça. Donc, on essaie de le rendre le plus accessible possible en ces termes-là. Mais c'est sûr qu'à la base, tout le monde est le bienvenu. C'est sûr que, comme on disait dès le début, faut avoir une certaine ouverture d'esprit, un certain intérêt envers les études féministes. Donc, sinon, je crois que ça fait pas mal le tour des prérequis.
Et puis, de ce que je comprends, il y a vraiment deux statuts, le statut d'auditeur libre mm-hmm. et le statut d'étudiant inscrit dans le cadre d'une formation, en fait.
Oui, mm-hmm. tout okay. à fait.
D'accord.
Donc, on peut à la fois s'inscrire seulement pour assister au colloque ou on peut s'inscrire en tant qu'étudiant ou étudiante pour faire le cours de l'Université féministe d'été, qui est encore une fois un cours intensif sur une semaine avec deux travaux à remettre. Puis là, ben, ça tombe bien qu'on soit là aujourd'hui parce que les inscriptions commencent mercredi.
Ah,
donc, dans deux jours, pour les étudiants et étudiantes qui veulent s'inscrire, faites vite parce que c'est toujours, toujours, toujours complet. Donc, si vous voulez être certain, certaine d'être là, c'est mercredi que ça se passe.
Justement, parlant des inscriptions, comment ça fonctionne? Je me doute qu'il doit y avoir deux processus bien particuliers, tout dépendamment de si on est étudiant ou particulier, personne extérieure qui veut simplement suivre ça pour son pur plaisir. Mm-hmm. Ça va être quoi le processus dans les deux cas?
Ben alors, les inscriptions non créditées, donc vraiment pour auditeurs, auditrices libres,
oui.
C'est déjà en fait ouvert. Donc, okay. si les personnes se rendent sur le site de l'UFE, ils peuvent déjà, elles peuvent déjà s'inscrire en suivant le lien qui est présent sur le site. Puis pour ce qui est du cours, comme le disait Rose, ça ouvre mercredi. Puis ça, c'est vraiment la procédure habituelle pour les personnes qui sont à l'Université Laval, en tout oui. cas. C'est la procédure habituelle sur mon portail par la recherche de cours et puis l'inscription mmh. régulière. Puis pour les personnes qui seraient peut-être à l'extérieur de l'Université Laval, dans une autre université au Québec, là, il faut vraiment passer par le BCI, donc le bureau...
la coopération interuniversitaire.
C'est ça. Pour faire une demande. Puis bien, vraiment, j'invite, si jamais il y a des auditorices d'autres universités aujourd'hui qui seraient intéressées, à voir avec leur gestion des études, oui. si c'est contributoire, encore une fois, puis à faire les démarches en partenariat avec leur gestion des études et le BCI, pour, puis assez rapidement, parce que c'est ça, comme le dit Rose, ça...
Ça part comme des petits pains chauds.
C'est ça, c'est des places qui partent très vite, ouais.
Et là, c'est... Le sujet peut-être qui fait frissonner un peu plus, est-ce que ça coûte quelque chose? Est-ce qu'il y a un engagement financier, engagement monétaire? Si oui, ça représente quoi pour les étudiants, pour les particuliers? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est similaire? À quoi faut s'attendre?
Eh ben, en termes de cours, là, c'est vraiment c'est basé sur les cours de l'été.
Okay.
Donc, le tarif des cours de l'été, je pourrais pas dire exactement, mais je pense que c'est autour de 300 $ avant les autres charges en termes de frais de scolarité.
Mais des frais essentiellement similaires à n'importe quel
Absolument.
Autre cours d'été qu'on prendrait.
C'est comme s'inscrire à un cours, peu importe la session. Là.
C'est okay. ça. C'est mm-hmm. un cours de 3 crédits, donc ça va être facturé comme un cours de 3 crédits. Et puis pour la formule colloque, là, le coût d'inscription, c'est $250.
Okay.
Donc vraiment, qui donne accès à toute la programmation en ligne, les articles aussi universitaires qui vont accompagner chacune des prises de parole des panélistes. Donc c'est ça. C'est vraiment 250 pour avoir accès à tout le matériel de l'UFE, ce qui est quand même assez intéressant, c'est ça, pour une semaine entière de conférences.
Oui, ben oui, c'est sûr. Là. Et pour parlant de la programmation, là, il y a vu que justement, il y a des coûts qui viennent avec ça, au total, on peut avoir accès à combien de conférences et c'est combien d'activités et de conférences différentes qui sont divisées sur ces à peu près 4 jours?
C'est une bonne question.
Je dirais peut-être une vingtaine de panélistes.
Une vingtaine de panélistes.
On ne les a pas comptés une à une, mais environ une vingtaine. Puis c'est ça, c'est des gens qui vont venir de différents milieux, autant des chercheurs aguerris que des gens de la recherche émergente, des gens du milieu communautaire, milieu militant. Donc on essaie vraiment d'avoir un beau mélange de tout ça. Puis c'est sûr que 250 $, oui, on y pense aux enjeux d'accessibilité. On aimerait ça que les coûts soient moindres, mais ça reste que c'est ce qui nous permet de payer oui. les gens. Donc il y a toujours cette espèce d'équilibre-là de... Ben, on veut pas se baser sur du travail gratuit et ne pas payer nos panélistes.
C'est
donc,
certain.
Pour rémunérer nos panélistes, il faut que notre auditoire participe financièrement aussi. Mais vraiment, pour une semaine de colloque, si on regarde avec les autres offres, c'est quand même abordable.
Oh, mais c'est pas du tout un reproche. Moi, je trouve que le prix est plutôt raisonnable. Je dirais même, j'ai déjà vu des colloques pour des sujets 1000 fois moins pertinent et ça se durait sur à peine 24 heures, 48 heures et ça pouvait coûter des 1000 quelques dollars. Donc, je trouve que c'est un beau sujet, un bel événement avec un bel objectif quitte à avoir ce montant d'argent-là à déposer, c'est une belle occasion, là, puis c'est un bel enrichissement personnel dans lequel placer son argent.
Ouais, tout à fait.
On va conclure avec où est-ce qu'on peut vous rejoindre, où est-ce qu'on peut trouver les infos si on veut aller sur le Facebook, le Instagram, le site web de l'UFE, qu'est-ce qu'on tape, qu'est-ce qu'on cherche?
Juste avant de répondre à votre question, je veux juste rajouter que si jamais, parce que c'est ça, on a une entente aussi avec l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois de la jeunesse, puis ils prennent pour les personnes en auditeurs libres, qui seraient français ou qui résideraient en France depuis au moins un an, ils prennent la totalité du montant des frais de colloque. Donc, regardez sur le site de l'OFQJ pour les Français, Françaises qui nous écouteraient, ça peut valoir la peine, c'est ça. Puis, pour répondre à votre question, sur le site de l'UFE, donc c'est via le site de la chaire Claire Bonenfant, qui est une des partenaires de l'UFE. Donc si vous tapez Université féministe d'été 2023, vous allez forcément tomber, c'est le premier résultat dans les résultats sur Google. et puis sinon,
L'Université féministe d'été sur Facebook. On n'est pas assez cool encore pour être sur Instagram ni sur TikTok.
C'est bien correct.
On est conservateur sur ce point-là, donc c'est vraiment sur Facebook. Puis si je peux me permettre d'ajouter, on a vraiment parlé de la programmation, mais il faut aussi comprendre que c'est un lieu de rencontre, un lieu de mise en dialogue des différents milieux, donc de réseautage aussi. Donc il y a vraiment une richesse là, à faire le programme en présentiel, puis de faire partie de ces réflexions-là, de faire partie de ce dialogue féministe-là. C'est vraiment un événement qui est unique, en fait, l'Université féministe d'été. Oui. Ça se donne pas ailleurs. À mon avis, à ce que je cherche au Québec ou même à l'international. Donc, on est vraiment contentes de l'événement du 22 au 26 mai.
Oui, c'est ça, on vous le rappelle, comme elle vient de le dire, du 22 au 26 mai à l'Université Laval, ça aura lieu, l'Université féministe d'été. Si vous êtes un étudiant, vous pouvez vous y inscrire par le biais du portail, comme vous chercheriez n'importe quel autre cours d'été. Et si vous êtes un particulier, un auditeur, une auditrice qui aimerait développer ses connaissances dans ce sujet ou qui est intéressé par l'événement pour toute autre raison, vous pouvez le faire, là, c'est ça, par le biais de l'UFE ou rappelez-moi l'autre site si...
Soit la page Facebook. Puis de toute façon, elle ramène à notre site web, soit le site web. Je ne l'ai pas en tête exactement, mais on pourra...
Chercher l'UFE sur Google et ça va sûrement être des...
Tout à fait. Donc, Université féministe d'été, vous allez nous trouver. On est les seuls avec ce nom-là à ma connaissance, donc ça ne devrait pas être trop compliqué.
Incroyable. Doctorante en sociologie, auxiliaire assistante d'enseignement, Bénédicte Taillefer, Rose Moisan-Paquet. Merci beaucoup de nous avoir joints pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps dans votre journée pour nous parler de ce très bel événement.
Merci
de l'accueil.
Passez une excellente journée. Écoutez, on va aller prendre une petite pause musicale et publicitaire, mais ne vous inquiétez pas, au retour, nous avons quelques dernières nouvelles et une très belle capsule historique qui vous attend. En attendant, on va aller en musique avec Simon Lachance, Amadou Moué.
Alléluia, Amadou Moué, je serai fort une autre fois. Mon cœur de pisse penche de ton côté. Mon toit qui coule, tes chutes de glace, nos nuits qui déboulent, un parfait désastre. We'll be right back.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheez 94.3.